Bien, ce matin, nous allons continuer à regarder dans la parole de Dieu sur le thème du combat spirituel, de ces luttes, hein, ces luttes que nous connaissons, ces attaques que nous subissons et qui ne sont pas à prendre à la légère. Bien au contraire, la parole nous interpelle à ce sujet, nous amène et nous invite, nous ordonne même à participer à ce combat spirituel et surtout à nous appuyer sur, eh bien, les moyens que Dieu nous a donné pour lutter de manière efficace dans ce domaine spirituel. Oui, c'est essentiel pour le chrétien de bien comprendre ce dont il s'agit, de bien comprendre celui qui initie ces assauts, de comprendre ses stratégies, de pouvoir ensuite parer ces attaques avec les armes spirituelles que Dieu a gracieusement confiées à ses enfants. Et comme on l'a déjà souligné par deux fois, lors des prédications, la question pour nous, c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour ce combat? Est-ce que nous sommes prêts à lutter? Et c'est pour ça que nous regardons dans la parole de Dieu pour bien comprendre les stratégies de l'adversaire, les objectifs qu'il a et les moyens qu'il emploie pour nous attaquer, mais aussi de voir les moyens que Dieu met à notre disposition. Alors jusqu'à présent, nous avons vu, en effet, que l'adversaire s'en prend à notre esprit, au moyen du mensonge, pour justement nous rendre ignorants au sujet de la volonté de Dieu pour notre vie, ce que Dieu a prévu pour nous, les grâces, les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Nous avons vu également que pour cela, et comme Paul nous le rappelle, eh bien, notre arme, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est avec la vérité, comme ça a été mentionné ce matin dans les partages, que nous pouvons voir les mensonges et ne pas écouter à ces mensonges. Le deuxième front de ces attaques spirituelles, là où l'adversaire cherche à nuire aux chrétiens, c'est dans le domaine de la santé. C'est notre corps qui fait l'objet des attaques de l'adversaire et par la souffrance qui est causée par la maladie, par l'infirmité. Eh bien, nous voyons dans les Écritures que le diable s'efforce, lui, de nous rendre impatients concernant la volonté de Dieu. On a vu que, oui, Dieu, il permet la maladie, comme ce fut le cas pour Job, qui permet ces choses afin de susciter en nous quelque chose de plus grand, une foi plus ferme en lui. Mais l'adversaire, lui, il cherche à nous rendre impatients. Et on ne comprend pas souvent, lorsqu'on est affecté par la maladie et les souffrances, pourquoi ça nous arrive. Et avec la souffrance, on le sait, avec la souffrance, on est souvent impatient, on veut que ça soit réglé le plus rapidement possible. Et le diable cherche à susciter justement en nous ce sentiment de colère vis-à-vis de Dieu, et nous amène parfois même à chercher des solutions humaines à des problèmes spirituels. Et là, comme le Seigneur l'avait signifié à l'apôtre Paul, eh bien, le moyen par lequel nous pouvons lutter contre cela, c'est la grâce toute suffisante de Dieu. Ma grâce te suffit. Ce matin, nous allons tourner notre attention sur une troisième stratégie de l'adversaire, stratégie qui découle, eh bien, de ce désir incessant du diable à vouloir dominer notre vie. Dans sa première épître, l'apôtre Jean, au chapitre 5, mentionne, eh bien, une des caractéristiques ou un des titres de l'adversaire. Dans le verset 19, il parle de lui comme, eh bien, celui qui domine. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Cette caractéristique que nous allons voir ce matin, c'est que voilà, l'adversaire cherche à dominer la vie de chacun. Il cherche à rendre esclave chaque âme à sa volonté. C'est intéressant qu'à travers le monde, justement, à travers les cultures et même à travers les âges, ce désir de liberté, ce désir d'indépendance anime chaque être humain, n'est-ce pas? Du plus jeune au plus âgé. Hein, moi, je me rappelle, et puis on a vu l'exemple ici du petit Caleb qui a couru vite hein, pour aller passer à côté pour le culte pour les enfants. Mais moi, j'ai remarqué souvent aussi avec mes enfants tout petits, on les tenait par la main déjà pour s'assurer qu'ils courent pas dans tous les sens, surtout quand on est en ville, etc. Mais souvent, ils tiraient, ils tiraient, ils tiraient, et ils voulaient qu'on leur lâche la main pour qu'ils puissent aller dans la direction qu'ils voulaient prendre, n'est-ce pas? On a tous ce désir de liberté et d'indépendance. Et l'adversaire va jouer là-dessus. Il va jouer sur ce désir inné que nous avons de cette liberté. La parole de Dieu nous révèle que dans cette guerre spirituelle, justement, le diable cherche à s'approprier notre vie afin de la dominer. Il est celui qui domine actuellement ce monde perdu, ce monde qui est dans les ténèbres. C'est lui. Et c'est une domination qui, et gloire à Dieu pour ça, c'est une domination qui est restreinte et c'est une domination qui est temporaire. Mais comme nous l'avons vu dans ce passage, dans ce verset de 1 Jean chapitre 5, oui, actuellement, eh bien, le monde entier est sous la puissance du malin. Et afin de dominer notre vie, eh bien, l'adversaire va pousser l'être humain à croire justement ce mensonge que la liberté se trouve dans le péché, n'est-ce pas? Que la liberté se trouve dans un péché même bien particulier, un péché pour moi, ce que je comprends et ce que je vois dans les Écritures, c'est vraiment de ce péché-là que découlent tous les autres péchés, en fait. Si la désobéissance à un seul commandement de la loi de Dieu, eh bien, nous rend coupables, comme nous le rappelle Jacques au chapitre 2, verset 10, eh bien, les Écritures nous montrent aussi que les conséquences de nos péchés varient, n'est-ce pas? Et à cause de cela, beaucoup de gens estiment qu'il existe de grands péchés et de petits péchés. Mais ça, c'est en relation à la conséquence, n'est-ce pas? À la condamnation qui s'ensuit et à la peine qui est encourue. Mais nous savons aussi que c'est le péché, peu importe. Le péché, c'est le péché qui nous rend coupables, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous rend ennemis de Dieu. Et même si, hein, dans l'esprit de beaucoup de personnes, ah, ça c'est un petit péché, c'est pas grave, non, tout péché est grave. Les conséquences, oui, on peut les estimer comme étant plus grandes, plus graves, mais tout péché est grave. Le péché reste le péché, et ça, il faut faire attention, il ne faut pas se leurrer à ce sujet-là. Le péché reste de la désobéissance, le péché reste un affront à la sainteté de Dieu, ça reste un rejet de Dieu, peu importe le péché. Et c'est exactement pour cela que l'adversaire, bien, cherche, pousse, attire, attise l'être humain à pécher. Si je vous demandais, en rapport à voilà les grands, les petits péchés, et leurs conséquences, etc. Mais si je vous demandais d'examiner la vie du roi David dans les Écritures, un homme selon le cœur de Dieu, et si je vous posais la question, quel a été son plus grand péché? Et je crois que la majorité des gens, de ceux qui connaissent un peu la vie du roi David, la majorité répondrait, c'est son péché d'adultère, n'est-ce pas? C'est le fait d'avoir tué son serviteur Uri afin de pouvoir s'approprier sa femme, afin de pouvoir couvrir son péché, couvrir également hein, la grossesse et la naissance de cet enfant issu de cette relation adultère. Et pour beaucoup, cela constitue vraiment le péché le plus grave de David. Mais les Écritures nous parlent d'un autre péché que David a commis. Et si on regarde justement, et si on estime que ben, la gravité du péché est liée à ses conséquences, les conséquences de cet autre péché ont été même plus graves que celui de cet adultère et de ce meurtre. En raison de l'adultère de David, il est vrai qu'il y a quatre personnes qui ont perdu la vie. Hein, Uri, le bébé qui est né. Ensuite, les conséquences, Amnon et Absalom. Hein, mais quand on regarde à cet autre péché qui nous est décrit dans les Écritures au sujet de David, ce sont 70 000 personnes qui ont perdu la vie. 70 000 personnes qui ont perdu la vie à cause de ce péché-là. Lorsque David a confessé son péché d'adultère, de meurtre, dans 2 Samuel 12, 13, il déclara au prophète Nathan, qu'il avait repris, il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Il a reconnu, il a admis, il a confessé son péché, n'est-ce pas? Mais dans 1 Chronique 21, cet autre péché que David a commis, David lui-même, lorsqu'il a confessé son péché, il avoua ceci, « J'ai commis un grand péché. » Un grand péché. Dans 1 Chronique 21, au premier verset, nous lisons que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Et notez verset 7, « Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. » Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Vous avez noté que, comme moi, au premier verset, celui qui a initié, celui qui a attiré et attisé David vers ce grand péché, c'est Satan. Comment donc l'adversaire s'y est pris pour amener David à grandement pécher? Quel a été ce péché? Comment pouvons-nous même repousser ce péché dans notre vie? Première chose que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est que Satan va cibler justement notre volonté. Vous vous rappelez de ce désir de liberté, d'indépendance, celui où l'adversaire cherche à nous dire que ben, c'est à nous de décider, c'est nous qui devons être au contrôle de notre vie, c'est nous qui devons maîtriser toutes choses, etc. Eh bien, par cela, Satan, il va cibler justement notre volonté en agitant le leurre de l'orgueil. Et par cela, il cherche pas à libérer l'être humain, il cherche à le contrôler, il cherche à le dominer, il veut contrôler notre vie, nos décisions, nos actions, nos paroles et même nos pensées. Beaucoup de gens qui se disent croyants ont une religion intellectuelle. C'est-à-dire, ils connaissent les choses, ils savent comment ça fonctionne, ils comprennent les mécanismes de la théologie que nous voyons dans les Écritures. C'est une religion qui va satisfaire l'esprit, mais qui ne les amène pas à changer leur vie. Qui ne les amène pas à effectuer les changements que devrait susciter la vérité qui est exposée dans la parole. Ah, ils peuvent discuter de la Bible, ils peuvent débattre à ce sujet, mais quand il s'agit de vraiment vivre spirituellement, lorsqu'il s'agit de laisser vraiment la parole de Dieu pénétrer leur cœur, leur âme, leur esprit, et de les changer, de les amener à ce point dans leur vie où je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu, je reconnais que j'ai encore ça dans ma vie, que je dois l'abandonner, et Seigneur, aide-moi à le faire, eh bien, ils ne parviennent pas à cela. Et puisque leur on va dire, vie spirituelle, leur notion de religion est purement intellectuelle, ils échouent. D'autres ont une religion qui est émotionnelle, qui est basée sur des sentiments, et des sentiments qui sont souvent aléatoires, qui varient selon les circonstances. Leur vie chrétienne ressemble quelque part à des montagnes russes. Quand tout va bien, ils sont tout en haut de la montagne russe, ouais, c'est génial, mais vient les moments où ils redescendent, et il n'y a plus ce rush de l'émotion, il n'y a plus ce rush de « ouais, tout va bien, ah, je me sens bien motivé pour le Seigneur, etc. » Et d'un coup, ils se sentent peut-être même abandonnés par Dieu, parce qu'ils ne ressentent plus cette émotion forte. Mais voilà, le fait est que la parole de Dieu nous montre que l'Éternel veut que ce soit l'ensemble de l'être humain, que ce soit son esprit et son cœur, que ce soit l'homme intérieur qui soit entièrement consacré à Dieu, un esprit qui est renouvelé, un esprit intelligent, un cœur fervent et une volonté qui soit obéissante. Et la différence, ça va être là. L'adversaire, lui, il veut dominer notre volonté pour que notre volonté s'aligne avec le péché. Dieu veut agir dans notre vie pour que notre volonté, ce soit de poursuivre la sainteté, poursuivre la pureté, la perfection de Dieu. Et pour vous qui avez justement accepté l'évangile de Jésus-Christ, qui avez accepté cette grâce de Dieu par la foi, qui vous êtes sauvés, parce que vous avez confessé vos péchés à Dieu et vous êtes repentis de votre péché, eh bien, Votre vie, elle doit être animée par ce désir constant de vouloir rejeter le péché, de faire tous nos efforts pour rejeter le péché. Comme ça a été souligné aussi ce matin, de faire tous nos efforts pour que nos pensées s'éloignent de pensées charnelles, s'éloignent des pensées pécheresses et s'orientent vers les pensées spirituelles. Pour nous, l'objectif, puisque nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est de grandir spirituellement, de pouvoir faire les changements dans notre vie qui nous amènent toujours plus à ressembler à notre Sauveur. Notre volonté finit par s'aligner à celle de Dieu, parce que tout comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait et l'a déclaré, Père, que ta volonté se fasse dans ma vie. Mais tout ceci est impossible lorsque justement l'orgueil va diriger nos pensées et donc nos paroles et nos actions. Il y a quelque chose au sujet de l'orgueil qu'il convient de souligner. C'est quelque chose qui est lié aussi au mensonge. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire va chercher à attiser l'orgueil dans notre vie, il va aussi mentir à ce sujet-là. Mentir par rapport à, mais le péché, ça va te faire du bien. Hein, de faire ceci, ça va te faire du bien. Et cela consiste, ce mensonge, à surestimer en fait la réalité de qui nous sommes. Ça consiste à nous faire croire que nous sommes bien plus que ce que nous pensons, bien plus que ce que Dieu dit. Les mots grecs qui sont employés pour désigner l'orgueil, par exemple dans le Nouveau Testament, sont souvent dérivés de cette racine, le mot hyper que nous avons, hein, hypermarché, etc., hein, qui signifie être au-dessus. Et tous les mots qui sont ainsi employés dans le Nouveau Testament pour parler de l'orgueil, eh bien, c'est de s'estimer au-dessus, de s'estimer être élevé, quelque chose qui est gonflé, qui est enflé. Dans ce livre de 1 Chronique, nous voyons qu'avant ce péché commis par David, au chapitre 20, eh bien, il y a une série de victoires importantes. Hein, la prise d'une couronne, d'une grande valeur, hein, qui a été placée sur la tête de David. Et il y a de quoi se sentir important, n'est-ce pas, lorsque on a une série comme ça de victoires dans notre vie. Tout comme, eh bien, dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous sentir peut-être à l'abri parce que nous avons réussi. Ah, j'ai maîtrisé ce péché. Ah, j'ai maîtrisé cette tentation. Ah, j'ai maîtrisé cette convoitise. Et nous oublions la mise en garde du Seigneur dans sa parole que celui qui se croit être debout prenne garde. Parce que le danger, il est présent. Le danger, il est constant. Parce que nous avons un adversaire, comme nous l'avons vu, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et pour David, il y avait de quoi se sentir important. Et lorsque, eh bien, cette pensée que l'adversaire a suscitée dans son esprit de faire ce dénombrement du peuple, eh bien, ça a amené David vers ce péché de l'orgueil. Et il lui a été difficile de résister à ce piège tendu par l'ennemi. Oui, David a remporté de grandes victoires, de nombreuses victoires, mais là, il a perdu la bataille la plus importante, une bataille spirituelle. Parce que justement, Satan a employé ses victoires, a employé toute cette situation pour gonfler l'ego de David et l'inciter à l'orgueil. Et l'orgueil, quelque part, elle est à la source, oui, de toutes les autres tentations de Satan. Parce que toutes les autres tentations que nous pouvons avoir dans notre vie, ça va toujours être aligné, fais-le parce que ça sera bon pour toi. Fais-le parce que tu le mérites. Fais-le pour toi, n'est-ce pas? Tous les autres péchés dans notre vie sont souvent liés à cet orgueil que l'adversaire, eh bien, nous fait suivre. On sait que souvent, parmi les chrétiens, parmi les péchés dans lesquels, hein, nous pouvons tomber, souvent, souvent, ce sont les péchés, hein, de la chair qui sont les plus condamnés, hein, par les chrétiens, qui sont les plus choqués par les péchés, hein, d'adultère, etc. Ou souvent aussi, nous voyons que là où il y a ce péché d'orgueil, ça choque moins les gens. Lorsque cet orgueil est présent d'une manière ou d'une autre, eh bien, on est moins, on va dire, incisif. On réagit moins. Et pourtant, l'orgueil touche chacun, touche même les responsables d'église et qui se rendent coupables de ce péché de l'orgueil, un péché qui reste quelque part vraiment spirituel, hein, qui va être peut-être manifesté dans l'attitude, etc. Mais voilà, on a tellement plus de facilité à juger, à condamner un péché comme l'adultère, plutôt que, tiens, tu sais, toi, t'es peut-être trop orgueilleux. L'orgueil est présent d'une manière ou d'une autre dans toutes les tentations donc, que nous voyons hein, l'adversaire employer. Lorsque il a tenté Adam et Ève, qu'est-ce qui a incité Ève à prendre du fruit? Mais Dieu sait que vous serez comme lui, que vous serez comme des dieux. C'était ce mensonge qui gonfle l'orgueil que, eh bien, moi, je peux être encore plus important que cela. Lorsque Satan a tenté le Seigneur, il a cherché également à le faire s'enorgueillir. Hein, je te donnerai toutes ces choses, etc. Et la raison pour laquelle nous retrouvons l'orgueil à la base de tous nos péchés, c'est que, effectivement, l'orgueil, c'est vraiment le tout premier péché. De ce que nous voyons dans les Écritures concernant l'histoire hein, de Satan, l'histoire de l'adversaire, nous voyons déjà que, il a été, oui, créé par Dieu, qu'il était un ange avec la plus grande, la plus haute responsabilité parmi les anges. Mais dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, il nous est décrit donc comme cet être angélique, un chérubin, hein, le plus élevé des anges, et qui développa dans son cœur, eh bien, cet orgueil, cette arrogance, en raison de sa beauté, en raison de son statut. Dans Ésaïe 14, nous lisons, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Remarquez que ce péché de l'orgueil émana de son cœur, n'est-ce pas? Tu disais en ton cœur. Notez également que toutes ces déclarations, Satan se met au centre de cela. Je monterai, je m'assiérai, je serai semblable au Très-Haut. Et à cause de cet orgueil, il s'est rebellé contre Dieu. À cause de cet orgueil, il a été chassé de la présence de Dieu. On comprend mieux pourquoi, en connaissant cela, que l'orgueil va vraiment être une de ces armes puissantes entre les mains de Satan, parce que c'est ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque l'adversaire s'en est pris à David, il l'a tenté par quelque chose qui, à première vue, pouvait sembler anodin, qui peut sembler normal. Il n'y a rien de plus normal pour un dirigeant d'un pays de se dire, tiens, j'aimerais savoir combien il y a de gens parmi mon peuple, surtout avec l'idée que, ben, avec un recensement, on peut savoir combien vont devoir payer des taxes, etc. On comprend cette logique-là. C'est quelque chose de tout à fait normal. Même dans les Écritures, dans le livre d'Exode, chapitre 30, Moïse lui-même avait ordonné un recensement. Alors pourquoi ce recensement ici ordonné par David est considéré comme un péché? C'est que lorsque David a recensé le peuple, Dieu ne lui avait pas demandé de le faire. C'est Satan qui avait initié cela. Et David a suivi cette voie-là pour sa propre gloire et non pas pour celle de Dieu. Et l'orgueil donc a motivé les actions de David, et l'adversaire s'est alors emparé de sa volonté, il a gonflé son ego et il a fini par le conduire à pécher contre Dieu. En tant que chrétien, nous devons veiller à ne pas tomber dans ce piège de l'orgueil. Dans les caractéristiques données par Paul à ce jeune Timothée, hein, concernant eh bien les requis hein, pour ceux qui veulent être dans le ministère pastoral, il y avait un avertissement de la part de Paul. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 6, il dit « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti ». Oh tiens, pourquoi? Parce que souvent, hein, on voit les nouveaux convertis, c'est probablement ceux qui ont le plus de volonté, qui ont le plus de zèle, ils sont tout frais, tout neufs, etc. Ils veulent faire les choses pour le Seigneur. Mais Paul, il dit « Ouh, attention à cela ». Pourquoi? De peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. La crainte, c'est que il y a cette inexpérience, il n'y a pas la maturité spirituelle face à ce piège de l'orgueil. Et c'est pourquoi nous, hein, nous devons également prendre ce danger avec le plus grand sérieux. La deuxième chose à noter, c'est que le but de l'adversaire, eh bien, c'est vraiment de nous rendre donc indépendants de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de consulter ce que Dieu veut que nous fassions, eh bien, nous, on estime avoir toutes les capacités nécessaires parce que nous sommes tellement importants, n'est-ce pas, que nous pouvons faire ces choix nous-mêmes sans même chercher à savoir ce que Dieu veut pour nous. Ne lui en déplaise. Malgré eh bien, ces promesses de liberté hein, de l'adversaire avec l'orgueil, l'être humain reste une créature qui est dépendante. Nous sommes tous dépendants. Dépendants de quelque chose, dépendants de quelqu'un. Nous sommes tous dépendants en tant qu'enfants, nous sommes dépendants des parents. En tant que même être vivant, nous sommes dépendants de la quantité d'oxygène qu'il peut y avoir autour de nous pour vivre, n'est-ce pas? Nous sommes dépendants de tout plein de choses. Et pourtant, nous voulons tous croire que nous pouvons être dépendants et nous suffire à nous-mêmes. L'être humain ne veut pas croire ni admettre qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de direction dans sa vie. Et l'essence même du péché, c'est cela, c'est de vouloir être indépendant de la volonté de Dieu, indépendant de lui, de vivre pour nous-mêmes. C'est de croire ce mensonge originel de l'adversaire, vous serez comme des dieux. C'est à vous de diriger votre propre vie. Parce que si Satan peut ainsi agir dans votre vie et vous amener à vivre ainsi, à agir ainsi, à penser de manière indépendante de la volonté de Dieu, eh bien là, il pourra contrôler votre vie par le péché. Vous penserez que vous agisserez en toute liberté, mais cela fait partie de la tromperie de l'adversaire. Parce qu'en réalité, vous suivez sa volonté, la sienne. Et on se rend esclave. On se met sous la domination de l'adversaire par l'orgueil. Chaque fois que nous désobéissons directement à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous manifestons notre orgueil, nous manifestons ce désir d'être indépendant, de vouloir contrôler notre vie, dans les grandes choses comme dans les petites choses. L'orgueil signifie justement que nous agissons de façon donc indépendante de Dieu. Et même parfois pire encore, parce que nous essayons d'utiliser même Dieu pour accomplir nos propres désirs égoïstes souvent. Un Dieu devient comme un génie dans la bouteille. Il reste enfermé dans la bouteille jusqu'à ce que... on a finalement besoin de lui. Et tout le reste du temps, il reste dans cette bouteille enfermée, n'est-ce pas? Lorsque nous nous rebellons ainsi contre Dieu, lorsque nous cherchons à faire cavalier seul, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvons, nous, exiger quoi que ce soit de lui? Comment est-ce que nous pouvons exiger de lui qu'il court à chaque fois à notre secours lorsque nous nous retrouvons dans des situations périlleuses? Lorsque nous devons faire face aux conséquences de nos choix. Vous noterez que, après ce recensement, après ce péché d'orgueil de David, Dieu était gracieux et patient avec lui. Il avait accordé 10 mois à David pour se repentir. Mais le problème avec l'orgueil, c'est que il s'alimente lui-même. C'est une fois qu'on a mis le pied dans la voie de l'orgueil, eh bien, on va chercher à être de plus en plus orgueilleux, de chercher plus en plus à vouloir faire ce que nous voulons et ne plus écouter ni la parole de Dieu, ni l'Esprit Saint, ni même les frères et sœurs qui nous encouragent à changer notre voie, notre conduite. David, avec ce péché d'orgueil, contrairement au péché d'adultère qu'il a commis, il n'était pas coupable de convoitise des yeux, il n'était pas coupable de cette convoitise de la chair, mais il était coupable de l'orgueil de la vie. Toujours dans cette première épître de Jean, quelques chapitres auparavant, au chapitre 2, les versets 15 et 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et là, on parle de tout ce qui est dominé par le péché. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et comme nous l'avons déjà vu dans les prédications précédentes, la volonté de Dieu, elle est essentielle. Elle est essentielle pour notre vie. L'adversaire, le trompeur, le menteur, il va chercher à nous rendre ignorants de la volonté de Dieu. Le destructeur va chercher à nous rendre impatients face à cette volonté. Et dans les deux cas, voilà, la volonté de Dieu ne sera pas à l'œuvre dans notre vie lorsque nous tombons dans ces pièges. Mais même si Satan ne parvient pas à nous tromper, et même s'il n'arrive pas à nous rendre impatients par rapport à la volonté de Dieu, il va toujours vouloir chercher à contrôler notre volonté par le leurre de l'orgueil. Parce qu'il veut que l'on agisse et que l'on vive indépendamment de la volonté de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre cette attaque? Comment est-ce que nous pouvons parer cette attaque insidieuse? Troisième chose à noter, c'est que nous avons un allié tout-puissant, le Saint-Esprit. Un contre cet esprit malsain de l'adversaire, il nous faut justement l'Esprit Saint. L'orgueil, c'est une arme qui est tellement puissante et Satan, un adversaire tellement puissant que nous avons besoin d'une puissance plus forte que celle-là pour nous donner la victoire. Et cette puissance, c'est l'Esprit Saint. Hein, nous avons eu l'occasion la semaine dernière, lorsque nous avons abordé le sujet de l'ascension, nous avons vu que le ministère de l'Esprit Saint envers les croyants est extrêmement important. Parce que oui, c'est celui qui console, hein, c'est ce consolateur promis par Christ, mais il est aussi celui qui enseigne, il est celui qui nous rappelle la parole de Dieu, qui nous assiste dans la prière, qui agit pour montrer au monde, à chaque être humain, voilà, votre péché et votre besoin de repentance et de la grâce de Dieu. Il a un ministère de conviction, n'est-ce pas? Il agit dans ce monde pour restreindre même le péché dans le monde. Sans l'œuvre du Saint-Esprit actuellement, ce monde serait dans un état encore plus terrible qu'il ne l'est déjà. Il est celui qui régénère l'âme du pécheur qui se repent, qui place sa foi en Jésus-Christ. C'est lui qui fait cette œuvre de régénération. C'est lui qui va sanctifier le croyant, c'est lui qui établit son temple dans le croyant, c'est lui qui va vouloir le diriger, lui montrer la voie à suivre, c'est lui qui va donner l'énergie, la puissance d'accomplir cette vie chrétienne, et il va équiper le croyant pour accomplir cela. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que l'Esprit de Dieu demeure notre allié le plus important dans notre vie. Certes, l'Église, les frères et sœurs, ce sont des alliés importants dans notre marche chrétienne, mais l'Esprit Saint est au-dessus de tout cela. L'orgueil, oui, est une arme si puissante et l'adversaire si redoutable que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour le vaincre. Comprenez bien que Dieu veut justement œuvrer dans notre vie, dans le but d'agir à travers nous, dans le but que nous puissions accomplir des œuvres spirituelles, des tâches qu'il a préparées d'avance pour nous. Et il n'est pas nécessaire pour nous de chercher à inventer quoi que ce soit pour, voilà, je vais faire ceci pour plaire à Dieu. Non, Dieu, il a déjà dit, tu vas pouvoir faire ceci et je te donne les moyens de le faire. Et avec ça, tu vas pouvoir, oui, me glorifier, mais tu vas pouvoir avoir une vie pleine de sens. Dieu a un plan parfait pour notre vie, des œuvres qu'il a prévues pour nous. Mais pour que cela puisse être une réalité dans notre vie, on ne peut pas nous passer de sa présence, on ne peut pas se passer de sa puissance, on ne peut pas se passer de sa direction, on ne peut pas se passer de sa volonté. Que devons-nous donc faire pour permettre à l'Esprit de Dieu d'agir en nous? C'est une guerre de volonté, n'est-ce pas? C'est une guerre de volonté entre la volonté de Dieu, celle de l'adversaire, et puis il y a la nôtre en plein milieu de tout cela. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivit aux Romains, dans cet épître, au chapitre 12, il dit au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2, « Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez transformés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que quoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie, il faut le laisser. Il faut le laisser prendre les commandes. Il faut le laisser diriger. Et Paul nous dit que lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous nous offrons à lui entièrement, corps, âme, esprit, que notre volonté, ben c'est Dieu, que ta volonté se fasse, c'est là que l'Esprit Saint va pouvoir agir de manière puissante dans notre vie. Ces mêmes domaines, le corps, l'âme, l'esprit. Vous avez noté que ce sont les mêmes domaines que, justement, précisément, l'adversaire attaque. Il veut attaquer notre corps par la souffrance pour nous rendre impatients face à la volonté de Dieu. Il veut attaquer notre esprit par le mensonge pour nous rendre ignorants de la volonté de Dieu. Mais aussi, il veut attaquer notre volonté par l'orgueil pour nous rendre indépendants de la volonté de Dieu. Mais en se soumettant à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Esprit Saint va pouvoir agir. Il va pouvoir fortifier. Il va pouvoir nous amener à avoir cette victoire contre l'orgueil. En tant qu'Esprit de grâce, il donne justement à chacun d'entre nous la force d'endurer la souffrance, de voir la vérité, parce que c'est lui qui nous rappelle la vérité de la parole de Dieu. Et c'est lui qui va nous amener aussi à regarder l'orgueil de la vie comme étant une vanité. La clé, c'est la soumission, c'est vrai. Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qui va se passer ? Et il fuira loin de vous. » Vous pouvez essayer de résister, mais sans être soumis à la volonté de Dieu, votre résistance sera comme un feu de paille. Chut. Se soumettre, c'est entièrement l'opposé de l'orgueil, n'est-ce pas? L'orgueil, c'est se mettre au-dessus. La soumission, c'est se placer en dessous. C'est se placer sous la direction, sous l'autorité. Et comme je disais, la condition de l'être humain, la condition humaine, c'est cela, c'est il y a une bataille de volonté. Soit nous écoutons donc le mensonge de l'adversaire, qui veut nous faire croire que nous n'avons pas à nous soumettre à qui que ce soit, donc pas à Dieu. Et en faisant cela, nous nous soumettons finalement eh bien, à la volonté du diable, parce que c'est ce qu'il cherche à nous faire faire. Le diable qui veut notre perte, notre destruction. Soit nous écoutons la vérité de la parole de Dieu, qui, lui, par amour, nous fait grâce de nous donner la liberté de choisir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des pantins, des marionnettes. Ah, Dieu nous donne le choix. Il veut nous rendre semblables à lui. Il veut que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il est, de toute sa bonté, de sa grâce, de sa bienveillance, de son amour, de cette grâce donc qui nous délivre justement de l'esclavage du péché, qui enlève la condamnation du péché. Et tout cela, lorsque nous nous soumettons ainsi à Dieu, ça nous amène à clairement voir quelle est sa volonté pour notre vie. Une fois que, voilà, moi, je mets de côté toute mes désirs qui sont liés à la chair, qui sont liés au péché, quand je rejette cela et que je me focalise sur qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qui Dieu veut-il que je sois? Soyez saints car je suis saint. Aimez-vous les uns les autres, etc. Toutes ces choses qui émanent de l'essence même de Dieu et que Dieu veut reproduire en nous. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui va nous amener à comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est elle qui nous enseigne la volonté de Dieu. Et en offrant ainsi notre vie entière, corps, âme, esprit, et quand nous nous sommes totalement abandonnés à Dieu, là, l'Esprit Saint pourra agir en nous. Et là, il va pouvoir développer en nous les caractéristiques de Dieu. C'est pour ça que Paul, également, a donné ce commandement dans Galates chapitre 5, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. C'est-à-dire, suivez sa direction. Et quoi? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, toutes ces luttes que nous pouvons avoir dans le domaine spirituel, lorsque nous marchons par l'Esprit, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Et il dit au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excitables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ce sont les perdus qui commettent ces choses-là. Et on arrive à ce verset 22 que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Voilà ce qui se passe lorsque nous nous soumettons à la direction de l'Esprit dans notre vie. Voilà ce qui se passe lorsque nous disons non à leur orgueil et oui à la volonté de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment suivre Christ, on ne peut pas faire autrement que de mettre à mort cette influence du péché, de la chair, des passions, et de suivre la direction de l'Esprit. Et donc ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu œuvre en nous, vous avez noté que il produit l'humilité. Et non pas l'orgueil. L'humilité, ça ne consiste pas à se dévaloriser. L'humilité, c'est de reconnaître et d'admettre la vérité nous concernant. Ça, c'est l'humilité. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser en disant « je ne vaux rien, je suis incapable ». Non, l'humilité consiste simplement à ne pas se penser être ce que nous ne sommes pas. Et donc nous devons être honnêtes, honnêtes avec nous-mêmes, honnêtes avec le Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce passage de Romains 12, au verset 3, que lisons-nous ? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. Ça c'est l'orgueil. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Une personne qui va vraiment accepter la vérité le concernant, eh bien, montre de l'humilité. Elle se connaît elle-même parce que la parole de Dieu lui a montré qui elle est. Elle accepte ce que Dieu dit de nous. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle cherche également à progresser, à avancer avec le Seigneur. Ça, c'est l'humilité. Celui qui est humble, il finit donc par comprendre que tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alors certes, nous pouvons dire, moi je suis capable parce que j'ai telle intelligence, moi je suis capable parce que je sais faire ces choses, etc. Mais nous devons reconnaître que Dieu est le Créateur, c'est Dieu qui nous a conçus pour être des êtres capables d'intelligence, capables d'inventivité, capables de produire des choses, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même nous a rappelé qu'un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Ou Paul également, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 7, interpelle l'orgueilleux. Qui es-tu, toi qui te considères comme supérieur? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, hein, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Si nous voulons donc être victorieux face à l'orgueil, ça commence par l'humilité. Et cette humilité, elle va venir lorsque nous reconnaissons, nous sommes pécheurs, nous sommes imparfaits, que toutes choses bonnes nous viennent de Dieu. Et cette humilité-là, c'est ça qui va nous amener à reconnaître que pour vraiment glorifier Dieu, eh bien, je dois faire sa volonté. Cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Cette volonté où Dieu veut nous amener à sa ressemblance. Et ça va nous amener à voir le péché de l'orgueil pour ce que c'est. Parce que l'adversaire, avec l'orgueil, qu'est-ce qu'il veut faire? Nous détourner de ce qui est bon, agréable et parfait. Il veut nous rendre esclaves de sa domination. Donc pour conclure, lorsque Satan, au moyen de l'orgueil, s'attaque à notre volonté, c'est par la soumission à l'Esprit de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est par le fruit qu'il produit dans la vie de celui qui se soumet à sa volonté qu'on va pouvoir avoir l'humilité nécessaire pour voir que, Seigneur, il y a cette tentation. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, oui, j'ai pu accomplir ceci, mais c'est par ta grâce. Et gloire te soit rendue. Parce que dès que nous mettons un pied dans le chemin de l'orgueil, immanquablement, immanquablement, nous allons aligner le reste de notre volonté à celle de l'adversaire. Parce que c'est l'orgueil qui va te dire, mais toi, tu es plus important que l'autre. Pourquoi est-ce que tu devrais le servir? C'est à lui de te respecter en premier. C'est à lui de t'aimer en premier, n'est-ce pas? L'orgueil va susciter cela. Mais par amour, amour qui est lié à l'humilité, Dieu nous demande d'être serviteurs les uns des autres, de manifester ce même esprit que Christ a manifesté, lui-même qui est devenu serviteur, lui, le Dieu éternel. Et donc lorsque nous agissons ainsi, lorsque, comme Jacques nous le rappelle, lorsque nous nous humilions devant le Seigneur, c'est là qu'il nous élève. Notre élévation ne vient pas de ce que nous, nous sommes capables de faire. Notre élévation ne vient pas de qui nous sommes, des personnes extraordinaires. Non, notre élévation vient lorsque nous acceptons la vérité nous concernant et que humblement, nous reconnaissons que c'est par Dieu et par lui seul et que humblement, nous le laissions donc agir dans notre vie. Il nous reste encore à voir un dernier aspect, hein, par rapport aux attaques de l'adversaire pour nuire à notre vie chrétienne. Mais d'ores et déjà, hein, nous avons de quoi remercier Dieu, de le glorifier, de ce qu'il ne nous a pas laissé pour compte, hein, laissé sans moyen de nous défendre, mais qu'il a tout pourvu pour que nous puissions mener une vie chrétienne qui soit victorieuse.